Mais pendant ce temps-là, Martine Bullard, pendant ce temps-là, chez nous, en France, eh bien, c'est pas brillant. C'est pas brillant du tout. Il y a un papier de Laurent Bonelli sur l'insécurité, sur les lois votées en matière de répression de policière. Et puis aussi, vous avez un papier important sur les chantiers de la démolition sociale, un papier de Christian Debrie, qui quand même est assez inquiétant, et où on voit comment, pendant ce temps-là, hein, c'est pendant ce temps-là, c'est toujours, tandis que on assiste à un démantèlement de tout un tas d'acquis sociaux, l'aide médicale aux précaires, le droit de licencier, l'indemnisation du chômage, l'impôt des tranches supérieures, il y aura les retraites, le grand débat sur les retraites au mois de juin, donc juste avant les vacances, et puis la sécurité sociale à nouveau à l'automne 2003. Donc on voit qu'il y a là un chantier actif de démolition sociale qui se passe quand même très facilement pour à la fois le gouvernement actuel et le MEDEF et Christian Debrie. Au passage, une petite note historique, faut toujours avoir une perspective historique dans le bon journalisme, rappelle que le patronat français fut un collaborateur assidu non seulement du régime de Vichy, mais aussi de l'occupant. Enfin, c'est une petite note historique au passage.
Oui, absolument, et certains même se sont enrichis à cette occasion, même s'il y a eu, on le sait, on va pas revenir sur l'histoire, des nationalisations, je pense à Renault notamment, dû à ces, pour exproprier ces capitalistes qui avaient collaboré avec l'Allemagne nazie. Mais bon, au-delà de ça, ce qui est vrai, c'est que ce que montre très bien Christian Debrie, c'est qu'il y a une vieille tradition du patronat français pour évidemment démolir, enfin empêcher tout acquis social, et quand ils existent, se saisir de toutes les opportunités qui peuvent exister pour les démolir. Et là, je pense qu'il y a derrière les rondeurs de Monsieur Raffarin, il y a un vrai chantier démolition, comme on l'a dit dans le titre du journal. Avec, il travaille sur les deux aspects, c'est-à-dire d'un côté, font tout un discours sur la sécurité pour dire aux gens, vous allez voir dans vos quartiers, on se préoccupe de vous, on va vous sécuriser, on va mettre tout ce qu'on peut mettre en prison. D'ailleurs, une mesure symbolique, c'est qu'on supprime 10 000 surveillants dans les écoles et on embauche 10 000 surveillants dans les prisons. C'est, je trouve, tout un symbole de ce gouvernement. Mais je crois qu'il faut dire très 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 fort que on ne sécurisera pas les quartiers, on ne sécurisera pas les habitations, on ne sécurisera pas les familles, si, dans le même temps, on développe l'insécurité de vie au quotidien, l'insécurité sociale au quotidien. Qu'est-ce que vous voulez ? On laisse les quartiers à l'abandon, notamment par exemple dans le domaine du logement, où dans le domaine du logement, il y avait une loi qui a été prise par l'ancien gouvernement, qui n'était pas complètement bien ajustée, mais qui quand même obligeait les villes ou les quartiers où il n'y a pas d'habitat social de construire de l'habitat social. Construire de l'habitat social, c'est pas forcément construire des tours de 15 étages, c'est prendre l'habitat là où il est, essayer de le transformer pour en faire un habitat social. Par exemple, cette disposition a été suspendue par ce nouveau gouvernement. Autre symbole de ce gouvernement qu'ils viennent décider là, c'est l'allègement de l'impôt sur les grandes fortunes. C'est-à-dire que d'un côté, on retire la CMU, enfin on réduit, pardon, les gens bénéficiaires de la CMU. D'un côté, on diminue l'aide aux personnes âgées. Hein, les dépenses vont se réduire de 400 millions d'euros hein, en année pleine. Et d'autre côté, on allège l'impôt sur les grandes fortunes. De 400 millions, hein, c'est un hasard de chiffres, mais on allège les impôts sur les grandes fortunes, et avec une série de dispositifs techniques, hein, qui est notamment le pacte d'actionnaires, je ne vais pas rentrer dans les détails très pratiques, mais des gens comme la famille Peugeot, par exemple, pourra ne plus être imposé sur la fortune. Parmi eux, il y a le baron Bic, il y a les Vindel très liés, auxquels sont très liés Monsieur Sellière, hein, puisque
Monsieur Maire aussi, qui était responsable de la chirurgie.
Oui, bien sûr, j'espère, oui, qu'ils connaissent bien le système. Donc ces familles-là, qui sont quand même pas parmi les plus pauvres, c'est le moins qu'on puisse dire, ni parmi les plus productrices d'emplois. Il faut se rappeler quand même que Peugeot continue à supprimer des emplois tout en annualisant le temps de travail, tout en dégradant les conditions de travail de ses ouvriers. Et ces gens-là vont pouvoir échapper à l'impôt sur les grandes fortunes.
C'est Robin des Bois à l'envers, quoi. On prend aux pauvres pour donner aux riches.
Absolument. Et autre exemple pour qui conforte ce que dit Serge
Alimi. Alimi, nous sommes toujours pareils. Il veut pas de changement du tout, hein.
Il y a quand même un changement parce que ça s'accélère d'une certaine manière. Ça va de plus en plus fort. Il y a par exemple l'impôt sur le revenu. Le précédent gouvernement avait déjà réduit les hautes tranches de l'impôt sur le revenu. Et cette fois-ci, il y a un nouveau, un coup, si je puis dire, en faveur des tranches les plus hautes de l'impôt sur le revenu. Ce qui fait par exemple que on est descendu au-dessous de la barre des 50% pour la tranche supérieure de l'impôt sur l'impôt sur le revenu. En revanche, les personnes âgées qui seront en difficulté ne verront pas leur situation s'améliorer, loin s'en faut, plus la vague de licenciements qu'on connaît. C'est-à-dire que là encore, le gouvernement prend une grande posture, des grandes déclarations sur Metal Europe, c'est pas possible, les patrons sont des voyous, mais en même temps, il a supprimé le peu d'outils que l'État avait à sa disposition pour essayer, à tout le moins, de contenir ces vagues de suppression d'emplois. C'est ainsi qu'ils ont, par exemple, supprimé... Il y avait l'idée, dans la précédente loi dite de modernisation sociale, de demander des comptes aux entreprises qui touchaient des fonds publics, ce qui est quand même le moins qu'on puisse faire. On pourrait leur demander ce qu'elles en font, et quand elles licencient, de rapatrier ces fonds, de leur demander de récupérer ces fonds. Donc ils ont supprimé cette disposition-là, ils ont supprimé ces dispositions qui permettaient aux inspecteurs du travail, par exemple, de pouvoir suspendre un plan social quand ils estimaient que vraiment c'était de la poudre aux yeux et qu'on n'a fait aucun effort pour essayer de reclasser ou former les ouvriers licenciés, et on pourrait multiplier les exemples comme ça. Et pendant ce temps-là, naturellement, M. Raffarin va sur les radios et explique que oui, bien sûr, c'est pas possible, il faut pas laisser les choses se faire, et en même temps, en sous-main, si je puis dire, il s'est défaussé tous les outils qu'il avait à sa disposition.
Monsieur Raffarin enseignait avant le poste le marketing politique. Alors, justement, Bernard Cassel vient de nous rejoindre. Vous connaissez tous ces milieux de l'enseignement supérieur, politique, etc., puisque vous travaillez dans un journal qui s'appelle Le Monde Diplomatique.
Nous enseignons même par ailleurs dans des universités.
Très bien. Donc, est-ce que le cours s'intitule bien marketing politique?
Le cours de...
Ce cours, il existe un cours, je crois que c'est à Sciences Po, il s'intitule Marketing
Politique. Bien sûr, c'est même une discipline prétendument scientifique.
Et on voit même des journalistes qui vont interviewer après les hommes politiques, mais avant faire des ménages, comme on dit, pour entraîner les hommes politiques à contourner les questions des journalistes.
Des ménages, il faut le préciser, payés non pas au tarif des femmes de ménage ou hommes de ménage, mais à des prix astronomiques.
Absolument.
Ça peut être 70 000. Même. Ça peut être 70 000. Et puisque Martine Bullard évoquait le thème du pendant ce temps-là, il faut dire que pendant ce temps-là, M. Raffarin déléguait ses ministres au Forum Social Mondial à Porto Alegre, où il faisait, évidemment, assaut de déclarations vertueuses contre les ravages du capitalisme dont il était le grand architecte en France.